Aujourd'hui, au balado Sportaide, nous avons de la grande visite. Madame Julie Gosselin, la première présidente de Sport Québec, et ça s'impose de le dire, c'est un fait marquant. Alors Julie, bienvenue à notre micro.
Merci beaucoup.
Vraiment très heureux de te recevoir. Puis là, ben, je pense que la première question qui s'impose depuis le début dans notre balado, on a eu des gens qui sont très connus. Puis là, ben, je veux rien t'enlever, mais il reste que t'es moins connu que Patrice Bergeron, Kim Gingras et la liste. Qui es-tu? D'où viens-tu?
Alors, bien sûr, je peux répondre à la question. Donc, je viens de Québec, très impliquée dans le sport depuis mon tout jeune âge. Donc, une grande fan de sport. J'ai joué au soccer, j'ai été arbitre, j'ai été entraîneur, je suis allée aux Jeux du Québec. Donc, j'ai utilisé tous les services possibles de sport amateur et je voulais redonner plus tard. Donc, j'ai eu la chance de travailler à RDS avec le sport amateur, entre autres, aux communications marketing. Et ensuite, j'ai eu la chance de travailler sur des conseils d'administration avec Baseball Québec, avec Sport Québec depuis 5 ans et depuis quelques mois à la présidence de Sport Québec, qui me permet enfin et de continuer d'aider le sport amateur dans sa visibilité, dans sa promotion, mais vraiment d'aider les jeunes pour avoir d'excellents services.
Et comment on devient présidente de Sport Québec? Puis ça devait être une fierté aussi, hein, la première.
La première femme, c'est une grande fierté, une grande responsabilité pour moi également, parce que je veux pas être la première et la dernière. Donc, je veux avoir d'autres femmes qui se portent volontaires dans les prochaines années, d'autres femmes qui se portent volontaires à être sur des conseils d'administration aussi de nos organisations sportives. Quand on regarde les chiffres des Galactions, c'est moins de 19 % des présidences de nos organisations provinciales qui sont avec des femmes. Donc, comment est-ce qu'on peut augmenter ces chiffres-là et montrer aux femmes qui peuvent avoir ce petit syndrome d'imposteur-là que c'est possible? Je raconte souvent l'anecdote, savoir quand on m'a demandé de joindre le conseil d'administration de Baseball Québec. Je suis une fille de soccer, j'ai jamais joué au baseball.
Ah, non. Hein?
mais c'est pas pour ça qu'ils venaient me chercher. Alors, comment est-ce qu'on peut dire? Bien, tout le monde amène une diversité, un point de vue différent, et c'est ça qui fait la force de nos conseils d'administration.
Puisque tu en parles de la place des femmes comme administrateur, mais comme entraîneur, comme officiel, comme bénévole dans le monde du sport. Puis là, il y a un paquet d'autres sujets là, dont on va pouvoir parler, mais puisque tu en parles, qu'est-ce qu'on devrait faire? Puis, as-tu des idées déjà de choses qu'on devrait faire pour favoriser l'ouverture, l'inclusion, la présence des femmes dans le sport?
Pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'avoir des modèles. Si aujourd'hui, je peux avoir dit « je peux être présidente de Sport Québec » et « je veux être présidente de Sport Québec », par exemple, c'est parce que tout au long de mon cheminement, j'ai eu des femmes comme modèles qui m'ont permis de dire « OK, je peux faire ça ». Donc, quand j'ai eu, par exemple, aux Jeux du Québec, 2 entraîneurs féminines pour la première fois, pour moi, ça m'a ouvert les yeux de dire « OK, ça se peut, peut-être ça pourrait m'intéresser ». Donc, quelques années plus tard, j'ai commencé à être entraîneur. Et même si j'étais une des seules entraîneurs en soccer dans mon entourage, mais je me posais pas la question « est-ce que je suis à bonne place? Est-ce que ça pourrait être moi? » Parce que j'avais vu des femmes le faire, donc je me suis dit « ben moi aussi, je peux le faire. » Et ça, c'est vraiment, vraiment important d'avoir ces modèles-là. Mais aussi de répéter qu'il faut pas avoir 100 % des critères. Parfois, on voit la liste de « voici les compétences à avoir. »
Puis les hommes ne se posent pas cette question-là.
Exactement. C'est typiquement féminin, même dans le domaine des affaires, où on regarde la liste « ah, mais cette ligne-là, je l'ai pas. » Mais c'est pas grave, parce que l'idée, c'est pas d'avoir 100 % des critères, puis c'est aussi de voir le potentiel et qu'est-ce qu'on a à amener que les autres n'ont pas nécessairement. Donc, de dire, bien, j'ai entraîné des garçons au soccer, bien, c'est pas parce que j'avais de l'expérience en soccer masculin, mais parce que je pouvais amener quelque chose à l'équipe qui était différent. Et c'est aussi pourquoi j'ai l'impression que je peux aider ces conseils d'administration-là, parce que j'ai mon expertise en communication marketing de mon travail, mais aussi l'amour du sport amateur qui me fait apprendre. Donc maintenant, je peux parler des règlements en baseball, même si j'ai jamais joué. Mais c'est sûr que si on me demande de faire le premier lancer officiel de match, ça me stresse encore. Mais c'est cette diversité de points de vue-là et d'expérience qui font des organisations intéressantes. Et c'est là que une mère de famille qui dit « j'ai peut-être pas le temps, j'ai pas ces compétences-là, j'ai pas étudié là-dedans », grave. Tout le reste de l'expérience va être très bénéfique pour les gens qui vont compter sur ces personnes-là pour être entraîneurs, pour être bénévoles. Il y a une place pour tout le monde.
Tu as parlé de modèles. En as-tu eu, toi, qui t'a influencé? Ou...
Moi, j'ai la chance dans mon parcours d'avoir plusieurs femmes qui ont été là pour moi sans le savoir aussi. parce que ça, c'est important. Il y a des modèles qu'on a la chance de rencontrer, il y a des modèles qu'on rencontre pas, mais qui ont une grande différence. À mon école secondaire, on me demandait souvent d'interviewer les personnalités qui étaient au mur des célébrités, qu'on appelait. J'ai la chance de rencontrer Manon Réon, qui avait étudié à mon école secondaire. Donc, c'est des rencontres comme ça qui permettent de bien saisir des personnalités et de faire... Ben, si elle, elle a pu, peut-être que ça peut me motiver moi aussi à faire les choses différemment. J'ai eu la chance, du côté professionnel, de travailler avec Isabelle Hudon, qui a créé l'EFEA, qui nous a permis de l'aider à créer l'EFEA également, une petite partie, donc qui a allumé l'étoile de l'ambition, que c'est normal et correct d'avoir de l'ambition, de le dire, et de pas avoir peur de ce syndrome d'imposteur-là ou de pas avoir peur d'essayer des nouvelles choses, de sortir de sa zone de confort puis dire que c'est correct, puis je vais être capable de le faire. Donc ça, c'est des exemples de femmes qui m'ont beaucoup aidée dans mon parcours, puis je pourrais en nommer tout plein.
Et puis, et qu'est-ce que ça te fait de réaliser que tu es un modèle maintenant, toi, pour des jeunes filles, des jeunes femmes qui te voient arriver à la présidence de Sport Québec?
Évidemment, je le sens pas encore parce que quand c'est nous, c'est autre chose. Mais j'espère que de voir qu'une femme peut arriver à la présidence, que ça peut-être était long, mais là, que c'est là, j'espère que ça va en amener d'autres. J'espère que ça va amener au moins la question. C'est quoi l'expérience d'un conseil d'administration? Mm-hmm. Qu'est-ce que je pourrais apporter? Est-ce que je peux commencer à un plus petit conseil d'administration et monter les étapes? J'espère que ça va montrer aussi qu'il y a de la place pour les femmes dans ce milieu-là, que notre voix est écoutée, qu'on a des bonnes idées également. Je sens ce mouvement-là dans le milieu sportif en ce moment. Je le sens qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont intéressées, qui veulent aller prendre des postes de cet emploi-là. Mais je vois surtout beaucoup d'hommes faire « on est rendu là ». OK, est-ce que j'en ai des femmes dans mon entourage qui ont peut-être pas le... que je pourrais aller leur dire, est-ce que tu t'es déjà vu? Est-ce que tu as déjà pensé que tu pourrais aller là? Parce que souvent, on le voit pas. On y pense pas nous-mêmes. Mais ça prend quelqu'un, ça prend souvent un homme pour dire, je te vois là. Moi, j'ai confiance en toi. Je sais que tu es capable. Tu devrais y aller. As-tu déjà pensé à ça? On prend-tu un café pour aller en parler? Et ça, on a besoin des hommes pour poser cette question-là. Mais j'espère aussi qu'entre femmes, on va le faire.
Oui, il faut se faire confiance.
Exact.
Et chez Sport Québec, vous-même, est-ce qu'il y a un plan de match, un plan d'action, des objectifs? Et si oui, quels sont-ils concrètement?
C'est sûr qu'on a un plan de match d'avoir une équipe à la permanence qui a une plus grande diversité. On a en ce moment une bonne balance entre les hommes et les femmes, et comment on a aussi cette valeur-là de la diversité sur notre conseil d'administration. Dans les dernières années, on a voulu faire ce changement-là sur plusieurs années. On a d'ailleurs un poste qui est ouvert en ce moment où on cherche quel est le bon profil pour se joindre à nous. Et encore là, on aimerait que ça soit une femme pour avoir cet équilibre-là et rapidement avoir la parité. On essaie d'avoir des comités qui sont paritaires. Et des fois, on pense, on cherche qui pourrait être sur notre comité, notre nouveau comité qu'on est en train de mettre sur pied. Et rapidement, c'est souvent des noms de gars qui nous viennent en tête. Mais ce que j'aime, c'est que maintenant, tout le monde fait « ça marche pas ». On recommence. Okay. On recommence, on retourne à la table à dessin. C'est important pour tout le monde dans l'équipe d'avoir quelque chose qui est paritaire. On travaille sur des projets en ce moment, d'avoir un langage qui est bon pour tous les genres. C'est important. Donc, je sens vraiment que tout le monde maintenant a une... L'idée a l'objectif de dire « je dois changer les choses, comment je peux le faire? » Même, des fois, c'est très, très simple. Hein? C'est quand on regarde le site web ou on regarde nos promotions, est-ce que c'est toujours des gars sportifs? Ou la question souvent que je me suis posée, et pas nécessairement à Sport Québec, mais dans le milieu sportif, ce qu'on voit, c'est l'athlète, c'est un homme, la fille en robe de gala.
Mais là, tu m'ouvres la porte. Tu as été dans les médias pendant des années. Oui. Les médias eux-mêmes ont un rôle à jouer. T'sais, moi, quand je regarde un bulletin de nouvelles, puis que les filles qui jouent au tennis arrivent à la fin du bulletin de nouvelles, alors que les gars qui pratiquent le même sport sont en ouverture ou très au début du bulletin de nouvelles, les médias aussi ont un rôle.
Absolument. Et ça, c'est... j'aimerais ça appeler ça un projet de société.
Bien, je pense que ça en est un.
De dire, est-ce qu'on peut donner plus de place aux femmes à l'écran, à l'écran pour parler de sport, pas juste de parler d'une chronique, mais vraiment de parler de sport parce que les femmes ont des connaissances, ils ont l'expertise. Les femmes aiment ça, le sport, mais c'est pas juste d'aimer ça, elles connaissent ça. Donc, est-ce qu'on peut en voir plus? De là, notre notion de modèle également. Mais est-ce qu'on peut parler plus de sport féminin? Nos filles de hockey, est-ce qu'on peut les voir plus souvent à l'écran?
Pas seulement aux Olympiques, là.
Ou, exact. Et En même temps, c'est pour tout le sport amateur. Est-ce qu'on peut parler du sport amateur à d'autres moments qu'aux 4 ans et être là pour nos athlètes amateurs tout au long de leur parcours? Mais évidemment, souvent, on va aller vers l'athlète masculin, mais nos athlètes féminines, est-ce qu'on peut les découvrir, en parler davantage, connaître leurs histoires pour être là après ça aux Olympiques derrière elles? Je pense qu'il y a un travail à faire de ce côté-là. Je vois des belles choses, je vois qu'on se questionne de plus en plus. Est-ce qu'on peut quand même avoir ça comme objectif? Comme on est un média, dire « je dois m'en donner plus, je dois aller chercher ces histoires-là, pas nécessairement attendre qu'elles arrivent. Il faut aussi être meilleur pour faire la promotion de notre sport. Je pense que ça joue des deux côtés. Il faut aussi que le sport féminin, on se met ensemble pour en parler davantage, être derrière elle. Et je vois beaucoup souvent de ce qu'on essaie de faire, un mentoring ou une espèce de partenariat entre les athlètes masculins et les athlètes féminins pour que les athlètes masculins qui ont déjà une belle visibilité puissent en donner aux athlètes féminines. Donc, c'est une piste intéressante, mais c'est certain que j'aimerais qu'on se donne des défis et des ambitions beaucoup plus élevées pour faire rayonner le sport au féminin.
Moi, je suis curieux de t'entendre parce que tu es impliqué à Baseball Québec et à Baseball Canada. Et s'il y a un sport où le sport féminin, où les filles se distinguent, puis il y a un essor en termes d'inscription aussi, c'est bien le baseball. Comment on peut expliquer ça? Parce que c'est un sport typiquement masculin, là. Pourquoi le baseball? Puis ben là, avec ta réponse, peut-être que ça va donner des idées à d'autres sports, à d'autres fédérations, là.
Si je parle du Québec, ça fait à peu près 20 ans que le Québec développe le baseball féminin. Le Québec est avant-gardiste pour le baseball féminin. On a d'excellents résultats à l'échelle nationale avec nos équipes nationales féminines qui sont pas très vieilles, mais qui se performent très bien. On a la chance d'avoir des équipes, des ligues au Québec. Quand on regarde à travers le Canada, souvent, les jeunes filles vont dire « je savais même pas qu'il y avait quelqu'un d'autre que moi qui joue au baseball parce que j'en vois pas d'autres filles. » J'ai même pas cette ambition-là de dire « je vais jouer dans une équipe de filles, je les vois pas. » Le changement qu'on a fait pour le baseball féminin au Québec, qui donne un peu, je dirais, dans les derniers mois, dans les dernières années, un élan du côté national également, c'est de dire, si on ne met pas notre focus là-dessus, si on n'est pas ambitieux, si on ne fait pas des plans de match, ça n'arrivera pas tout seul. Quand j'ai commencé à travailler sur cette stratégie-là pour développer le baseball au féminin, donc on parle des athlètes, mais on parle des entraîneurs, des arbitres, de nos marqueuses, de nos administratrices également, parce que pour moi, c'est un tout. Si on veut voir plus d'athlètes, elles doivent voir plus de femmes dans l'entourage et vice-versa. Donc ça, c'est très important dans la stratégie, mais c'est de dire, pour moi, le sport féminin, souvent, c'est vu comme un programme. Chez nous, c'était un programme. Donc, comme administrateur local, je pourrais décider une année de ne pas offrir de baseball féminin parce que je n'ai pas le temps. Ce n'est pas une priorité. Donc, je mets mes efforts sur le baseball masculin. L'année prochaine, on pourra regarder qu'est-ce qu'on fait avec le baseball féminin. Et c'est là qu'on avait vraiment une difficulté de dire, bien, ça veut dire que si c'est moi la personne qui s'occupe du baseball féminin, puis cette année, je suis vraiment passionnée, j'ai plein de projets, puis l'année prochaine, il arrive quelque chose, puis je ne suis plus bénévole, bien, qu'est-ce qu'on fait avec nos athlètes féminines? Ça arrête. Donc, on avait besoin de ce grand plan de match-là, on avait besoin de l'engagement de tout le monde, du conseil d'administration provincial jusque sur le terrain. On avait besoin de dire à nos bénévoles, on va être là. On va vous aider, on va avoir des outils, on va ensemble arriver à faire marcher la machine pour que nos athlètes aient un plan de match qui commence à 5 ans. Ils savent déjà qu'ils préfèrent l'équipe nationale et voici comment y arriver. Mais il a fallu que tout le monde travaille ensemble, que tout le monde se met comme ambition, que c'est pas de dire on a une équipe, on est tellement content. Non, on va avoir une ligue. On va avoir deux ligues. On va avoir une ligue provinciale, une ligue régionale. Donc, cette ambition-là a amené des résultats intéressants, beaucoup de changements, mais encore là, je reviens à la chose la plus importante dont on parle depuis le début. On en a parlé.
Parce que c'est le point de départ.
Ben, le baseball féminin, il y a peut-être 3 ans qu'on a commencé, les gens disaient, tu baseball féminin? C'est pas tu veux dire le softball? Genre, non, le softball, c'est un super sport, mais il y a aussi le baseball féminin. Et juste de dire, on va le mettre de l'avant, on va en parler, on va mettre nos coachs de l'avant, on va se poser la question, est-ce que notre athlète de l'année au Gala Sport Québec, est-ce que ça pourrait être une fille? On n'a jamais pensé à ça. Ben, peut-être que c'est notre fille qui est sur l'équipe nationale qui a eu les meilleurs résultats. Pourquoi pas? Donc, en mettant les filles de l'avant, on s'est causé un beau problème de notre côté où, à un moment donné, on a eu comme réflexion, peut-être qu'on en parle trop. Non, non, on n'en parle pas trop. Peut-être que le baseball masculin aussi doit en parler plus. Donc, en faisant cette promotion-là, on a brisé le silo de dire le baseball féminin n'existe pas. Tout le monde s'est mis à dire « Ah, c'est un sport intéressant pour mes jeunes filles, on va l'essayer. » On a fait des cliniques à travers le Québec, dans toutes les régions. On a fait connaître le baseball, parce que souvent les gens ne connaissaient pas ça non plus. Venez l'essayer. Si vous aimez ça, tant mieux. Si vous n'aimez pas ça, tant pis. Et aussi, on s'est rendu compte que le baseball est un beau sport complémentaire à d'autres sports. Les filles peuvent jouer au hockey l'hiver et venir jouer au baseball l'été. Mm-hmm. Donc, ce côté multisport-là, pour les filles, devient très, très intéressant.
Et là, tu abordes quelque chose que je n'avais pas prévu, le côté multisport. Mm-hmm. Il y a beaucoup de sur-spécialisation. Mm-hmm. Et là, ben, tu sais, dans les derniers mois, on entendait que différents sports ont commencé à se parler pour faciliter là, à nos jeunes la possibilité de pratiquer plus d'un sport dans l'année. Comment tu vois ça? Toi, je me doute de la réponse, mais quand même, je pense que c'est important d'en parler. Tu viens de le nommer toi-même. Là.
Exactement. Et on a regardé les statistiques. Les joueurs et joueuses sur nos équipes nationales de baseball ont presque tous un parcours d'athlète multisport. Donc, ce qui démontre qu'on développe des habiletés différentes, une musculation différente et une réflexion différente par rapport à notre sport. Et ça, c'est très important. Donc, nous, on veut vraiment développer ça. Oui, on sait qu'on va avoir du baseball maintenant à l'année, par exemple, mais fondamentalement, je trouve que c'est bon d'essayer plusieurs sports ou d'avoir une pause d'un sport une fois de temps en temps. Donc, d'aller avec d'autres gens, développer d'autres qualités de leadership et également de stratégie, ça fait un athlète plus complet à la fin. Et c'est ça qu'on essaie de pousser de plus en plus, même avec nos sports-études, par exemple. Même si c'est un sport-études dans un sport, on essaie de développer des habiletés dans d'autres sports également. Mm-hmm. Donc, quand on regarde souvent nos grands athlètes de hockey vont souvent dire que l'été, ils jouent au baseball. Mm-hmm. Parce que ça leur a permis de développer vraiment d'autres choses. Donc, on compte beaucoup là-dessus. Et chez les filles, particulièrement, on le voit de plus en plus.
On l'a mentionné précédemment, tu es présente sur différents conseils d'administration. Moi, j'aimerais ça qu'on discute ensemble de la responsabilité. Mm-hmm. Là, je ne veux pas pointer des événements d'actualité du doigt, mais disons que dans les dernières années, il y a des sports, des fédérations, des organisations qui n'ont peut-être pas agi de manière responsable avec leurs ressources. Puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus, moi. La responsabilité, l'imputabilité de nos administrateurs, comment c'est important dans nos organisations sportives quand on parle d'environnement sportif sain et sécuritaire.
Exact. Et ça, c'est une préoccupation. C'est vrai que c'est une préoccupation qui était peut-être pas autant là avant que maintenant. De mon expérience, je sens vraiment que c'est une priorité pour les administrateurs en ce moment. Comment est-ce que, même si on est à un niveau provincial, par exemple, on peut s'assurer que tout se passe bien sur le terrain? Souvent, on va se dire, on a une politique. La politique est là, on l'a faite, on passe à d'autres choses. Mm-hmm. C'est beaucoup plus qu'une politique. Comment est-ce qu'on peut faire de la prévention? Comment on peut s'assurer d'avoir une oreille attentive? Comment on peut s'assurer qu'à tous les niveaux, avec nos administrateurs qui soient formés, qui soient en mesure de savoir quoi faire s'il y a une situation, qu'ils se sentent bien d'en parler également, qu'il y ait des bonnes ressources pour en parler, mais également qu'on ait du travail à faire avec nos entraîneurs, que ça devienne une priorité dans notre champ de compétences, de former nos entraîneurs, de s'assurer que nos équipes du Québec, par exemple, aient l'information, qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils sentent qu'on est là. Et je pense que c'est ça qui est important. Beaucoup plus qu'avoir une politique. Mm-hmm. La politique, c'est le fun, mais elle ne sera pas nécessairement là pour dire « Vas-tu? Es-tu correct? » Puis des fois, ça, c'est des questions qu'on veut se poser davantage. Est-ce qu'on sent qu'on est toujours là sur le terrain puis qu'on sait tout ce qui se passe? Non. Est-ce qu'on trouve ça difficile des fois de dire « Comment je peux être sûre que tout est correct? » Parce qu'on se les pose, les questions. Et ça, on doit travailler là-dessus. On doit continuer à avoir des ressources comme vous pour nous aider à avoir ces réflexions-là. On doit se les poser régulièrement. C'est pas juste une chose à l'heure du jour, un point. On doit se poser les questions. Est-ce qu'on a toujours fait ça comme ça parce qu'on a toujours fait ça comme ça? Ou est-ce qu'on a des changements culturels à faire? Ça prend du temps des fois. C'est difficile des fois. Mais c'est le travail d'un bon conseil d'administration de te poser ces questions difficiles-là.
Quand tu observes ce qui a été mis de l'avant au cours des dernières années là, pour nos jeunes sportifs, trouves-tu qu'on prend bien soin de notre monde? Il n'y a rien qui est parfait, là, ça on le sait, là, mais trouves-tu qu'on prend bien soin de notre monde? Puis toi, y a-tu quelque chose que tu vois qu'on devrait mettre en priorité?
Je vois que c'est plus souvent une priorité. Je vois des administrateurs se poser beaucoup de questions. Exemple en ce moment, la question sur la santé mentale, par exemple, de nos jeunes, qui sort énormément. Quand j'ai des collègues qui font le tour de leurs jeunes dans leur entourage ou des coachs pour les appeler juste pour savoir comment ça va. Et les histoires parfois qu'on peut entendre de, ou les confidences qu'on peut entendre en ce moment avec la pandémie, dire « c'est pas la COVID qui me stresse. C'est quand je vais revenir à la maison et je vais voir mon adolescent. Quel état je vais le retrouver? » Ça, ces conversations-là, ça vient briser le cœur de nos administrateurs, des collègues, dire « qu'est-ce qu'on peut faire de plus? » Oui, on a des programmes, on a des choses à régler, mais quand on a des histoires comme ça, ça nous amène à poser d'autres questions. Est-ce qu'on a les bons services? Est-ce qu'on a les bonnes conversations? Est-ce qu'on crée de l'anxiété de performance chez nos jeunes? Sans s'en rendre compte avec les objectifs, les discussions, les programmes. Parce que des fois, il faut se mettre en pause. Et ça, c'est des choses que probablement on ne se posait pas comme question ou que chacun disait, c'est pas moi, moi je devrais pas faire ça. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent ces questions-là. Elles sont bonnes. Est-ce qu'on a encore la recette parfaite? Non. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une conscientisation en ce moment qui veut dire, OK, ce qu'on fait en ce moment, est-ce que c'est vraiment bon? Ou est-ce qu'on crée quelque chose qui, à long terme, ne sera pas bon?
Quand tu regardes les taux de décrochage en milieu sportif, qu'est-ce que ça te fait? Mais aussi et surtout, Sport Québec, vous voyez ça comment? Quel rôle vous pouvez jouer? Avez-vous une intention, un objectif? Je pense que vous pourriez jouer un rôle là-dedans pour aider nos jeunes à rester dans le sport, à demeurer actifs. Parce que l'autre effet de ça, ben, tu l'as nommé précédemment, c'est les bénévoles. Les gens qui quittent aujourd'hui, c'est difficile de les ramener plus tard. Alors, chez vous, chez Sport Québec, et toi, personnellement, comment tu vois ça, le décrochage bon, actuel, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire?
Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est d'entendre des témoignages d'athlètes qui mettaient un terme à leur carrière parce que le citron avait été trop pressé. Donc, la décision de mettre fin à la carrière sportive arrivait quand même tôt. Et c'était pas parce que je suis contente de mon expérience, je suis rendue à un autre niveau, je suis rendue ailleurs, je veux focusser ailleurs. Le discours, des fois, peut être c'est assez. Ça, pour moi, c'est là qu'il faut qu'on se pose des questions. Comment est-ce qu'on peut continuer à avoir notre milieu compétitif, notre milieu où on veut avoir une bonne performance, on va avoir du plaisir, mais sans arriver à avoir étiré trop l'élastique. Ou, on va le dire aussi dans le milieu du travail, souvent, on va changer d'emploi parce que c'est notre gestionnaire. On change pas d'emploi parce qu'on n'aime pas notre emploi, on cherche notre emploi parce que le gestionnaire était pas un bon fit pour nous, par exemple. Même chose pour un entraîneur. L'histoire de, ben j'arrête, ma fille, elle a arrêté de jouer, par exemple, parce que avec l'entraîneur, ça fonctionnait pas. Ça devrait pas arriver. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler avec nos entraîneurs, avec nos bénévoles, avec nos athlètes pour garder le bon équilibre entre j'ai du plaisir, j'aime ça ce que je fais, je me dépasse, mais je tire pas l'élastique jusqu'à finir le sport avec une mauvaise expérience.
Puis, on l'a abordé dans la question, les bénévoles, comment on peut faciliter leur recrutement? Parce que c'est de plus en plus difficile. Puis, les gens nous disent, moi, j'ai pas vraiment envie d'aller m'impliquer comme ça. J'ai pas envie de subir des commentaires des autres parents. Comment on pourrait faciliter leur recrutement puis les garder avec nous aussi? Parce qu'on en a besoin. Là. Le monde du sport sans bénévoles, le monde du sport n'existe pas. Là.
En plein ça. Et ça, c'est vraiment important de se rappeler ça parce que souvent, la critique est facile vers un bénévole. Et la critique peut faire mal pour des gens qui investissent beaucoup de temps, d'énergie et de passion. Et on peut perdre des bénévoles juste sur « j'ai eu cette année de trop gérer de plaintes ». Donc, comment est-ce qu'on travaille également sur nous, avec les parents, pour faire en sorte que les situations soient plus faciles pour tout le monde puis qu'on enlève cette pression-là de dire un gala de fin d'année, c'est pas les Oscars, par exemple. Tu sais, on veut bien faire, là, on fait bien ça, mais c'était bien correct. Merci beaucoup d'avoir mis votre temps là-dessus. Mais pas, je l'aurais fait comme ça, moi. Mais c'est sûr que nos bénévoles, c'est la richesse de notre sport. Je donne l'exemple du baseball. Le baseball n'allait pas bien au départ des expos. On a perdu un membership incroyable.
Ça, c'est impressionnant que le baseball ait remonté comme ça malgré le départ des expos. Hein?
Pourquoi?
Tu l'abordes, là.
Mais parce que les bénévoles ont été incroyables.
OK.
Les bénévoles de cette période-là, ils sont restés.
Ça, c'est de la passion, là. Parce que le modèle de réussite, il venait de disparaître, là.
Et si cette bénévole-là avait dit « on va revenir, on va... » Les bouchées doubles, on y va, on va le ramener notre sport, on va aller les rechercher les jeunes, c'est une mauvaise passe, on est capable. C'est ces bénévoles-là qui ont réussi à ramener le baseball. Si les bénévoles eux aussi avaient fait le baseball est mort, chose qu'on entendait je ne sais pas combien de fois, il y a 7 ans à peu près, c'est ces bénévoles-là qui ont cru, qui ont continué, qui se sont relevés les manches, qui ont travaillé le matin, le midi, le soir dans leur travail, la fin de semaine, qui ont ramené ça. Si les bénévoles, c'est au cœur, il faut leur faire vraiment attention et il faut les reconnaître également.
Tu as été joueuse, oui. Tu as été entraîneur, tu as été officielle. Fait que là aussi, il y a encore des sujets là, comme officielle. Oui. C'est pas facile pour eux, là, sur un terrain, sur la glace. Même dans des sports où ils sont pas présents sur la surface de jeu, les gens qui jugent un sport, eux aussi, ont ça difficile. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amener les gens à réaliser que d'abord, ce sont des êtres humains, puis oui, ça pourrait arriver qu'ils se trompent, puis qu'on les respecte davantage, parce que c'est vraiment là où il y a un manque flagrant, là.
Absolument, et ça, c'est le travail de chaque organisation, s'assurer de ce respect-là. Pour moi, il faut faire attention pour que les limites soient respectables, il faut ce respect-là. Il faut avoir des mécanismes pour s'assurer que le respect soit là. Il faut que les arbitres se sentent bien appuyés. Par exemple, d'avoir un programme pour les nouveaux arbitres, pour que les spectateurs voient que c'est un nouvel arbitre, qu'il soit plus gentil dans leurs propos, par exemple, parce que rien de pire qu'un nouvel arbitre qui commence et qui finit. Donc, on veut que les premières années soient des belles expériences. On veut compter sur les spectateurs, les parents pour embarquer sur les entraîneurs. On a beaucoup de travail à faire aussi pour s'assurer que les entraîneurs, oui, veulent donner un bon show, mais respectent vraiment les décisions des arbitres. Et ça, c'est un partenariat entre tout le monde qui va nous arriver à ça. On voit beaucoup d'arbitres se joindre à nous. On aimerait qu'il y en ait encore plus des officiels et des arbitres. Mais c'est sûr qu'il y a cette crainte-là de dire « Est-ce que je vais me sentir bien? Est-ce que je vais me sentir respectée? » Ou finalement, à la fin de la partie, je cours presque à la maison pour finir tout ça. Comme arbitre, moi, je me souviens d'avoir trouvé ça difficile.
Tu parles des officiels, de ton expérience. Bien, moi, j'aimerais ça t'entendre sur s'il y a des jeunes qui nous écoutent puis qui vivent des difficultés. Parce que je suis convaincu qu'il y en a qui en vivent. Y a-t-il un conseil qu'on peut leur donner pour passer à travers ça parce qu'ils en ont besoin, là?
Moi, je suggère souvent d'avoir un espèce de partenaire, quelqu'un à qui parler. Je pense que c'est ça qui est important parce que souvent, la question, ça peut être « Est-ce que c'est juste moi? Est-ce que c'est parce que moi, j'ai pris une mauvaise décision? Est-ce que c'est la bonne décision à prendre? » Souvent, ça peut ruminer. Et c'est ça qui, des fois, amène la pression de dire, bien là, après chaque match, après chaque compétition, je me demande presque si c'était moi la problématique, si les gens n'étaient pas contents avec moi. D'en parler, je trouve ça très important. Donc, d'en parler à un collègue qui peut avoir plus d'expérience ou même qui commence, au moins, souvent la réponse va être, ah, moi aussi, je me sens comme ça. Mais j'ai tel truc. Cet échange de trucs-là, cette normalité-là aussi, vient éviter les questionnements et nous permettre de poursuivre. Chacun trouve ses trucs. Je connais beaucoup d'arbitres qui vont dire maintenant, ça fait partie de mon environnement de travail, puis j'essaie de passer à d'autres choses. Ou encore, j'essaie d'avoir les conversations avec les spectateurs, avec les entraîneurs pour qu'ils comprennent.
Et ça, comment tu fais ça? Discuter avec des spectateurs et des parents qui parfois ont la mèche courte.
Et c'est là qu'il faut avoir des alliés. Donc, c'est pour ça qu'on compte beaucoup sur les formations qu'on peut faire, par exemple, qui sont ouvertes à tout le monde, pour que tout le monde puisse comprendre la réalité. Je pense que la compréhension, la formation, c'est ce qui aide le plus. Si, par exemple, dans des assises annuelles, tout le monde peut participer, poser des questions, avoir une connaissance de base, mais ça permet d'apprécier encore plus le rôle de l'autre. Ou encore, ce qu'on teste en ce moment au baseball, c'est d'avoir dans nos sports-études une formation d'entraîneur et d'officiel pour les jeunes. Donc, dans le parcours académique, il y a la formation, la certification pour apprendre à être un entraîneur et tu dois aller faire des parties. Donc, tu dois comprendre l'envers de la médaille. et tu dois vivre la situation. Donc, pour les athlètes, on trouve que c'est vraiment un bel apprentissage.
Absolument.
Parce que quand tu retournes sur le terrain après, tu vois le match d'une façon bien différente.
Tu as été entraîneur aussi, puis souvent, ils ont mauvaise presse pour quelques cas isolés. Puis là aussi, c'est difficile de recruter des entraîneurs pour cette raison-là et d'autres. Trouves-tu qu'on les encadre bien, qu'on les accompagne bien? Puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit une expérience plus positive pour eux?
Pour commencer, je dirais, quelques entraîneurs ont mauvaise presse. La plupart des entraîneurs font un travail exceptionnel. Donc, des fois, c'est dommage de voir quelques mauvais exemples baisser la lumière sur les entraîneurs qui sont tellement importants pour des jeunes athlètes. Ça devient souvent un deuxième parent, un meilleur ami, un grand frère, une grande sœur. Ils ont un rôle très, très important. Il faut leur faire attention. Il faut bien les accompagner, qu'ils ne se sentent pas seuls également, qu'il y ait de la formation. Je pense qu'on a d'excellents programmes de formation. Est-ce que parfois nos formations sont trop techniques par rapport à, je dirais, le côté mental, par exemple, qui est tellement important et qui change avec les générations aussi? Peut-être. Est-ce que je sens quand même qu'il y a des organisations qui se posent des questions, de dire peut-être qu'on devrait avoir une meilleure balance là-dessus? C'est pas juste des formations sur comment faire un arrêt, comment faire une passe, mais c'est d'autres choses. Je sens qu'il y a de plus en plus de travail, une meilleure offre là-dessus pour équiper nos entraîneurs, pour aider nos adolescents. On a de plus en plus de services pour aider nos entraîneurs aussi parce qu'on veut pas nécessairement qu'ils prennent le poids de tout ce qui se passe dans leur équipe. Donc, c'est là qu'on peut voir, par exemple, des psychologues venir aider des équipes pour faire le travail mental avec nos jeunes. Donc, comme ça, l'entraîneur a une responsabilité, mais aussi un partenariat avec ces ressources-là sur le terrain qui deviennent très, très intéressantes. Je trouve que le rôle de l'entraîneur est tellement important qu'on doit continuellement se poser des questions sur comment on peut les aider davantage.
On l'a dit en introduction, tu es la nouvelle présidente de Sport Québec. Tu diriges une organisation importante. C'est des milliers de bénévoles, d'entraîneurs, d'athlètes. Quel genre de leader es-tu?
Ça, c'est une excellente question. J'espère être une... je dis souvent que je veux que les gens sentent que je suis une fille d'équipe. Je viens du soccer. Je viens du milieu du sport collectif. Je sens que c'est vraiment ça ma différence où je veux être proche des gens. Je veux avoir le pouls des gens. Je veux qu'on travaille ensemble des trucs parce que j'ai l'impression que souvent, on peut travailler en silo et on serait tellement plus fort ensemble. Ma clé, c'est vraiment d'encourager les gens à prendre des initiatives, à ne pas se sentir dans une boîte, à dire « bien ça, c'est pas moi d'habitude qui prend ces décisions-là », mais de saisir les opportunités et de rêver grand. De vraiment dire « je peux faire une différence. Il se passe quelque chose, même si je ne l'avais pas prévu, comment est-ce qu'on peut aider davantage et comment est-ce qu'on peut vraiment saisir les forces de tout le monde et vraiment connecter ensemble. On a une grande famille du sport. Pourquoi pas travailler ensemble? Et c'est ça que j'espère apporter à l'organisation, de faire ces connexions-là entre tous les partenaires pour qu'à la fin, bien, le milieu du sport évolue encore plus rapidement et qu'on ait les forces de chacun pour aider ceux qui ont peut-être moins de ressources, par exemple, ou qui soient moins en lumière pour les amener ensemble, pour que ce soit toute la famille du sport vraiment qui grandisse.
Et dans tes nouvelles fonctions, quel est ton plus grand défi? Quel sera-t-il?
On le vit actuellement.
Ouais.
La pandémie est assurément le plus grand défi. Mon mandat a commencé en pleine pandémie, donc je n'ai pas vécu l'avant comme présidente, je vis le pendant.
Entrée en matière.
Exactement. j'espère voir la fin également et comment on va se relever de tout ça. C'est le plus grand défi parce que ça vient changer toute la planification qu'on pouvait avoir, tout ce qu'on voyait venir à court terme. C'est le plus grand défi de garder notre focus, de garder nos gens. Tu parlais des bénévoles tout à l'heure. Il ne faut pas les perdre en période de pandémie. Il y a d'autres choses, d'autres priorités également, mais il faut qu'ils reviennent, il faut qu'ils soient avec nous. Il faut s'assurer que nos athlètes, nos jeunes, continuent de garder leur amour du sport, qu'ils ne décident pas d'aller jouer aux jeux vidéo à la maison et de ne pas vouloir sortir. Il faut que nos filles qui commencent à découvrir le sport, l'activité physique continue, qu'on les perde pas. Il faut garder l'intérêt de tout le monde. Il faut pas perdre nos clubs parce qu'ils doivent fermer leurs portes parce qu'ils n'avaient pas l'aide financière nécessaire. Il faut s'assurer que nos commanditaires soient là quand on va recommencer, qu'on va réouvrir.
Ça va être une difficulté.
Ça va être une difficulté parce que plusieurs commanditaires vivent des périodes difficiles actuellement. Donc, de garder la motivation de tout le monde et de s'assurer qu'en ce moment, tout le monde survit. Qu'on a des activités, on a de l'activité physique pour nos jeunes, une offre de service pour nos jeunes avec la problématique de santé mentale qu'on vit actuellement, et qu'à la relance, on soit prêt, on soit là et qu'on puisse le plus rapidement possible continuer à livrer les grands événements qu'on a, par exemple, ou tous les services qu'on avait partout au Québec grâce à nos équipes sur place. C'est assurément le plus grand défi qui, on l'espère, sera accompagné d'un retour des Jeux du Québec.
Oui, bien là, cette semaine, vous avez annoncé là, qu'on changeait le calendrier de présentation. Là. Ça va être un défi, ça aussi. Là.
Effectivement, parce que c'est un grand événement. C'est surtout un événement d'envergure qui est tellement important pour nos jeunes.
Ouais.
Les Jeux olympiques.
Mm-hmm. Ah oui, tout à fait.
C'est les Jeux olympiques de milliers de jeunes Québécois à chaque année. Mm-hmm. On veut continuer à les faire rêver, ces jeunes-là. En ce moment, c'est ce qui manque. Je fais de l'activité physique, je me garde en forme, mais le rêve...
Oui, la motivation, là...
Exact. Mm. Il faut la garder allumée. Donc, beaucoup de réflexions de toutes nos équipes pour s'assurer qu'on revienne avec un événement rapidement et qu'on ait la chance de célébrer le sport comme il se doit également avec tous nos partenaires.
Comment tu trouves ça de garder les gens mobilisés comme ça dans ce contexte-là? Là, c'est pas facile, là. Comment tu trouves ça?
Deux choses. On a des équipes en or. Les gens réagissent très bien. C'est pas d'horaire. Mm-hmm. Il n'y a pas d'horaire en ce moment. C'est le matin tôt, c'est le soir, c'est sans arrêt. Je fais un plan aujourd'hui, demain, il faut que je change. Mm-hmm. J'ai des appels pas faciles à entendre, pas faciles à réagir. J'ai pas de réponse. Je trouve nos gens très résilients. Mm-hmm. Très résilients. Et la passion, si elle n'était pas là, on ne réussirait pas aussi bien qu'actuellement. Quand on regarde tous les protocoles qui ont été développés pour permettre le retour du sport, le travail derrière ça, c'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils veulent aider les jeunes, ils veulent s'assurer que les jeunes puissent retourner rapidement à leur pratique. Il y a énormément de travail, énormément de mobilisation. Mais est-ce que c'est difficile parce qu'on se dit, enfermé encore, on n'y est pas arrivé? C'est pas évident, mais la famille du sport est vraiment tricotée serrée. L'aide que tout un chacun se donne en ce moment, la tape dans le dos de dire hey, « on continue, on y va, on va y arriver. Les jeunes ont besoin de nous, il faut qu'on soit là. » C'est ça qui fait la différence, mais je remercie de la personne qui a le leadership dans sa piscine locale au directeur général de la fédération qui travaille en ce moment ensemble pour trouver des solutions. C'est fascinant à voir et je les remercie vraiment beaucoup.
Quand je te parle d'environnement sportif sain, sécuritaire, quel souhait ferais-tu pour nos jeunes sportifs?
Je leur souhaite tellement de ne pas avoir à vivre une mauvaise expérience ou à se poser des questions. Est-ce que je vais être correct? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que c'est normal ce qui se passe? Je souhaite maintenant qu'on en ait tellement parlé qu'on continue à en parler tellement, qu'on fasse tellement de prévention, qu'on permette à tout le monde de parler, de sentir correct, de poser des questions, de se sentir à l'aise, d'aller chercher de l'aide, et que notre environnement, globalement, soit plus sain, parce que tout le monde a ces réflexions-là, tout le monde a les mêmes priorités. Et à la fin, pour le jeune, bien, j'ai du fun, je travaille, je sais que je suis correcte. Et pour le parent, je sais que mon enfant est dans un bon endroit parce que tout le monde qui travaille autour a ça comme priorité et a ça à cœur, le bien-être de mon jeune.
Et nous, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et à Sport Québec?
À Sport Québec, je dirais que, et à l'ensemble de ses membres, un retour au sport organisé le plus rapidement possible. Des bénévoles en or pour continuer à faire le travail. Des jeunes qui ont le goût de bouger, avec qui on peut leur offrir toute l'aide avec nos entraîneurs et les arbitres pour avoir un environnement. On veut retourner à notre pratique parce qu'on est tellement des passionnés au Québec. Pour moi, personnellement, c'est sûr qu'en temps de pandémie, parfois, c'est plus difficile d'en parler, mais ça reste quand même mon combat. J'espère vraiment avoir plus de filles dans le milieu sportif. J'espère vraiment, et souvent on va le voir en situation de crise, il va y avoir plus de filles qui vont lever la main pour aider, et j'espère que ce sera le cas. J'espère qu'à la fin de mon mandat, je vais dire, OK, il y en a d'autres qui lèvent la main, qui sont là, qui ont le goût et qui se sentent bien de le faire. qui sentent pas que c'est ben bon, je suis encore toute seule, mm-hmm. ça va être moi contre les gars, que ça soit vraiment un milieu accueillant comme je le vois actuellement, comme je le vis. Et qu'on ait cette parité-là dans nos conseils d'administration et beaucoup plus de femmes qui vont dire « je vais y aller à la tête parce que j'ai goût, parce que ça me tente puis parce que c'est le fun ».
Ben écoute, à t'entendre, à t'observer, j'espère que d'autres vont avoir la chance d'écouter ce qu'on vient de faire parce que c'est vraiment inspirant. Moi, je te dis un grand, grand, grand merci, Julie. Ça a été vraiment une discussion super appréciée. Puis on se dit à bientôt. Merci beaucoup.
Absolument, merci.
Merci.